DW. Pulsation.
Face aux mesures de confinement qui ont conduit à la fermeture des écoles, les initiatives de téléenseignement ne manquent pas sur le continent africain. Nous en verrons quelques exemples. En fin d'émission, coup de projecteur sur la mutinerie du Bounty il y a 231 ans. Mais tout d'abord, le mot du jour, masque. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
L'une des mesures observées pour lutter contre la propagation du coronavirus est le port du masque. L'occasion pour Pulsation de revenir sur l'origine et la signification du terme. Le mot « masque » en français vient vraisemblablement de l'italien « maschera », qui lui-même est issu du terme latin « masca » qui veut dire « masque », mais aussi « sorcière » ou « démon ». On les appelait ainsi à cause du mot « mascara » qui, dans beaucoup de vieilles langues romanes, signifiait « tache noire, salissure ». Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'un produit de maquillage, le mascara. Ce qui rejoint la tradition des premiers déguisements qui consistait à se noircir le visage et parfois aussi le corps. C'est donc d'abord pour dissimuler, représenter ou imiter un visage que l'on a créé des masques il y a bien longtemps. On les utilisait dans des contextes festifs, spirituels ou religieux. En revanche, l'utilisation de masques dans l'objectif de se protéger est apparue plus tard. Sans pouvoir dater exactement son avènement, on peut supposer que les premiers masques protecteurs visent à filtrer la poussière dans les mines ou se prémunir d'épidémies comme la peste. À l'époque, les médecins portaient des masques en bec d'oiseau remplis de plantes médicinales censées tuer les particules infectieuses. Les masques médicaux apparaissent au XIXe siècle après que Pasteur a découvert les microbes. Il existe de nombreux modèles de masques de protection, allant des plus simples, en papier par exemple, aux plus sophistiqués, munis d'un ou plusieurs filtres et capables de filtrer non seulement des particules ou des microbes, mais même des vapeurs de toutes sortes. Aujourd'hui, les masques sont un produit industriel produit par millions, voire milliards dans le monde entier. Et pourtant, au XXIe siècle, des crises sanitaires récurrentes, dont la dernière est en plein déploiement en ce moment, ont montré que les masques peuvent manquer et pousser les populations à en confectionner eux-mêmes. Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeunes et Culture. Nous allons nous pencher maintenant sur un problème qui touche plus d'un milliard de jeunes et d'enfants à travers la planète, la fermeture des établissements scolaires et universitaires à cause de la pandémie de Covid-19. 115 pays ont décidé de fermer toute institution éducative, du jardin d'enfants aux facultés d'enseignement supérieur, selon les chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le continent africain connaît aussi ce genre de restrictions et pour pallier le manque de cours sur les bancs de l'école, des initiatives voient le jour afin d'offrir un soutien pédagogique par d'autres biais. C'est le cas par exemple en Côte d'Ivoire. Mon école à la maison. C'est ainsi qu'a été baptisée une plateforme de ressources pédagogiques mise en place par le système éducatif ivoirien et qui s'adresse aux élèves de maternelle, du primaire, du collège et du lycée. Il s'agit d'accompagner les élèves confinés chez eux dans les différentes disciplines.
Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours qui se fait en classe de 3e. Ce cours est intitulé « Coordonnées des vecteurs ».
Cours de mathématiques pour les élèves de 3e. La professeure explique non seulement en théorie un domaine du programme de 3e, mais elle pose aussi des exercices d'application des connaissances qu'elle vient de présenter. Les cours en ligne sont certes gratuits et accessibles sur Facebook et d'autres sites internet, mais pourtant, ils ne représentent pas le remède universel. En effet, dans certaines régions rurales en Afrique, la couverture internet est très faible, pour ne pas dire inexistante, et lorsque le réseau est là, le prix de la connexion n'est pas abordable pour tout le monde. On estime qu'en Afrique subsaharienne, 89% des apprenants n'ont pas accès aux ordinateurs familiaux, 82% ne disposent pas d'internet. L'enseignement à distance n'est donc pas évident dans ces conditions. D'autres initiatives en Afrique ont choisi la voie de la télévision. Au Burkina Faso, c'est même une télévision privée, Burkina Info, qui propose ce service.
Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers élèves.
Marino Compaoré est professeur certifié de philosophie et enseigne à distance bénévolement. Dans une salle de classe vide, devant un tableau où il est inscrit à la craie le libellé du sujet du jour, il débute son cours de philosophie pour les classes de terminale. Car la chaîne a pris le parti de se concentrer sur les élèves en classe d'examen, c'est-à-dire de troisième et de terminale. Les cours de matière considérées comme principales, les mathématiques, la physique-chimie, la philosophie et le français, sont enregistrés et 4 unités sont diffusées chaque jour.
D'où justement le titre de notre chapitre aujourd'hui, Autrui et la personne. Pourquoi nous avons opté pour ce chapitre? Parce que c'est un chapitre cardinal dans l'enseignement de la philosophie en terminale.
Pas de problème de connexion. Il suffit d'être présent devant le téléviseur à l'heure pour suivre le cours. Mais la télévision n'est pas non plus le remède miracle. Il n'y a pas d'interactivité entre l'enseignant et les élèves. Impossible de poser une question et le prof n'est pas en mesure de contrôler si son auditoire a bien compris. Si on comprend, c'est bien, mais si on ne comprend pas, on n'arrive plus à suivre. C'est le principal grief qu'adressent les utilisateurs ou leurs parents à l'enseignement à la télé. D'autant qu'avec les coupures d'électricité, l'assiduité à ces cours peut s'avérer très compliquée. À Dakar, au Sénégal, on a opté pour une technique qui allie non seulement la télé, mais aussi le numérique. Pour répondre à la fermeture des établissements scolaires dans le pays, la télé-école notamment, qui ne diffuse ses programmes que sur Internet, a décidé de mettre ses studios à disposition pour enregistrer des cours avec tout le matériel numérique approprié. Ensuite, les modules sont publiés sur toutes les plateformes digitales de la chaîne de télévision, animées d'ailleurs par des jeunes désireux de se lancer dans ce média, d'où le nom télé-école.
Bonsoir, chers téléspectateurs de la première chaîne de télé éducative en Afrique, au Sénégal.
Modou Mar est élève de première. C'est lui qui présente le journal aujourd'hui. Pour lui, c'est un avant-goût de ce qu'il attend puisqu'il rêve de devenir journaliste de télévision. C'est un excellent entraînement, confie-t-il.
Ça permet d'avoir une certaine équilibre entre soi et une bonne maîtrise de la langue aussi.
Ce n'est pas étonnant que Télé-École s'ouvre à l'enseignement de soutien en cette période de confinement puisque son fondateur, Hassan Boup, qui a lancé la chaîne il y a 2 ans, l'a inscrit tout de suite dans un esprit d'ouverture et d'universalité de l'éducation. Un sujet qui lui est cher et qu'il défend au micro de Mehdi 1 TV Afrique.
Ce qu'on donne à l'enfant n'est pas important, mais quelle est la valeur de ce qu'on lui donne? C'est ça la véritable question. Est-ce quelque chose qui le pousserait à aller vers la négation ou est-ce une chose qui l'amènerait vers le positif? Alors nous avons opté pour le positif. Et le positif pour nous, c'est l'éducation.
L'éducation déclinée au sein de télé-école autour des métiers de la télé, mais à l'échelle scolaire. Ce sont des élèves qui présentent des émissions de langue, de sciences ou autres sujets présentant un intérêt de culture générale. Toutes les formes de contenu sont proposées dans les programmes, que ce soit des débats, des reportages, des journaux ou des émissions interactives. Une diversité qui ne peut être garantie que grâce au soutien et à l'encadrement de professionnels des médias tels que Sada Kané, président de la commission éducation média. Il sait que beaucoup de compétences sont requises pour s'en tirer à l'écran.
Comment faire un reportage, comment traiter un sujet, comment présenter, comment écrire, surtout le plus important, comment écrire pour la télévision, c'est-à-dire écrire pour l'oreille, une écriture orale. On leur a appris tout cela. Et puis comment aussi présenter le JT avec le ton qu'il faut.
Sada Kané pour nos confrères de Mehdi 1. Ce sont donc aussi les journalistes et présentateurs de demain qui s'aguerrissent sur Télé-École, la première chaîne de télévision éducative et scolaire de l'Afrique de l'Ouest. Et si les jeunes ne poursuivent pas dans cette voie, l'expérience n'est pas inutile. Apprendre à s'exprimer devant une caméra ou un public, ça peut toujours servir.
Coup de projecteur.
Nous sommes le matin du 28 avril 1789, il y a donc 231 ans. Un bateau à 3 mâts navigue dans le Pacifique Sud, en route vers les Indes orientales. Mais le Bounty n'atteindra jamais sa destination. Le second capitaine, Christian Fletcher, a en effet rassemblé suffisamment de marins mécontents autour de lui pour pouvoir prendre le contrôle de l'embarcation et débarquer le capitaine William Bright en compagnie des 18 matelots qui lui sont restés fidèles. Il s'agit de la fameuse mutinerie du Bounty, que l'on connaît de différentes adaptations cinématographiques. Les représentations sont souvent clairement orientées pro-mutin et anti-capitaine. Or, la réalité semble beaucoup plus nuancée. Surtout lorsque l'on sait que Fletcher, le mutin, et Blight, l'autorité, étaient de vrais amis au début de l'aventure. Le Bounty quitte l'Angleterre en 1787 pour Tahiti, où il doit charger une cargaison d'arbres à pin pour l'acheminer vers les colonies britanniques d'Inde. Là-bas, les arbres à pin doivent être cultivés pour servir de nourriture bon marché aux esclaves. La première partie de la mission se déroule sans encombre. Après un voyage de un an, l'escale de 5 mois à Tahiti permet à l'équipage de prendre du bon temps. Mais la discipline en a considérablement souffert. Et lorsque le capitaine Blight a essayé de restaurer une certaine rigueur en multipliant les sévices et les sanctions de plus en plus dures, la relation avec ses hommes s'est détériorée. Particulièrement avec Fletcher, qui est devenu son souffre-douleur. C'est donc 3 semaines après le départ de Tahiti que ce dernier organise la révolte et abandonne le capitaine et ses fidèles sur une chaloupe avant de regagner Tahiti. Des désaccords mènent à la séparation des mutins en 2 groupes, dont un sera capturé puis jugé, alors que l'autre, celui de Fletcher, s'installe sur l'île de Pitcairn après avoir détruit le Bounty. Mais le comportement dominateur des mutins anglais vis-à-vis des Tahitiens qu'ils avaient emmenés avec eux, surtout concernant les femmes qu'apparemment ils s'échangent sans vergogne, ne tarde pas à créer des tensions qui culminent lorsque 5 mutins sont assassinés, dont Christian Fletcher, en septembre 1793. Quant au capitaine Blight, qui venait d'arriver en Angleterre de retour d'une mission réussie en acheminant les fameux arbres à pin, il est tombé en disgrâce aux yeux de ses pairs à cause de son intransigeance. Voilà, c'est la fin de cette édition de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Vous accédez au podcast sur dw.com/français, rubrique médiathèque. Bonne continuation à l'écoute de la DW. Salut !